pardonner parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc on voit ainsi cette miséricorde de notre Seigneur qui pardonne parce qu'il y a la contrition. Donc vraiment, c'est tout à fait providentiel. Cela m'amène à parler ainsi du sujet de ce soir, de la confession tout simplement. La confession, évidemment, vous savez tout ce que c'est, mais peut-être est-il bon de rappeler quelques principes pour retrouver toujours l'intérêt de ce sacrement. On vous a parlé de la grâce, de l'habitation de Dieu dans notre âme, du péché qui détruit cette vie de la grâce. On sait que le péché mortel, il s'appelle mortel parce que précisément il tue la vie divine dans l'âme, il brise l'union que Dieu avait établie avec l'âme par cet état de grâce. Et si la mort surprend cette âme dans cet état, bien vous savez que l'aversion, l'état d'aversion que cette âme a envers Dieu devient irréparable, devient immuable. Donc l'éternité ne fait que ratifier, confirmer l'état de mort surnaturel, librement choisi par l'âme en se détournant de Dieu. Donc vous vous rappelez tous, évidemment, peut-être vous l'a-t-on dit, pour qu'il y ait péché mortel, il faut qu'il y ait matière grave, évidemment. Il faut qu'il y ait la connaissance, savoir que c'est grave, et évidemment le plein consentement. Si vous avez ces trois conditions, eh bien évidemment, l'âme préfère sa propre satisfaction à celle de Dieu. Donc elle se détourne de Dieu. Et si la mort nous surprend dans cet état, bah évidemment, on reste en aversion de Dieu. Et donc, devant Dieu, l'âme ne fait que ratifier le choix qu'elle a fait, donc elle se détourne de Dieu. Bon, Dieu la punit évidemment pour sa justice, mais en même temps, l'âme, par elle-même, elle a fait ce choix, donc elle se détourne de Dieu pour l'éternité. Ce qui fait qu'on peut dire cette formule qui est un petit peu provocante, mais qui est réelle, en enfer, il n'y a que des volontaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont choisi librement de se détourner de Dieu, qui ont refusé la grâce. Et bien donc, ça veut dire qu'effectivement, en enfer, il n'y a que des gens qui ont choisi d'y être. Parce qu'ils ont choisi délibérément de refuser Dieu. Donc, ce qui fait que vous n'aurez jamais quelqu'un en enfer qui dit « Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ?» Non, peut-être vous en aurez au ciel qui se poseront la question « Qu'est-ce que je fais là ?» Parce qu'ils seront arrivés comme le bon larron par des moyens un peu détournés. Mais en enfer, non. Parce qu'en enfer, c'est des personnes qui vraiment, délibérément, ont refusé Dieu. Ils ont refusé une grâce. Ils se sont détournés de Dieu. Donc ayons, bien sûr, vous l'avez, cette horreur du péché mortel. Aussi, évidemment, du péché véniel qui conduit. Mais malgré tout, si, malgré cette horreur que nous avons, et on tombe quand même dans le péché grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout est fini? Est-ce qu'il faut se dire, bon, je suis tombé dans le péché grave, bon, de toute façon, maintenant, plus rien à faire, autant profiter de la vie, et on y va. Il y a cette solution-là? Ou alors la solution, peut-être pire, en disant, j'arrive pas, je suis désespéré, j'essaie de faire des efforts, malgré tout, j'arrive pas. Bon, bah autant finir tout de suite. Donc ça peut être le suicide. Tout ça, évidemment, ce ne sont pas des attitudes chrétiennes. Parce que notre Seigneur, connaissant notre faiblesse, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a institué ce merveilleux sacrement. Ce sacrement de la miséricorde divine, le sacrement de pénitence. Voilà le remède. Le remède de notre Seigneur à notre faiblesse. Alors, eh bien, nous cesserons de voir deux parties. Première partie, le sacrement lui-même. Et deuxième partie, ce qu'on appelle les actes du pénitent. Sacrement en lui-même. Objection que l'on fait à ce sacrement, sacrement de pénitence. Oh, ça, c'est encore une invention des curés. C'est une invention de l'Église. Moi, je me confesse directement à Dieu. Je n'ai pas besoin d'homme. Moi, c'est en direct. Direct. Pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Bon, peut-être vous êtes-vous fait cette réflexion une fois ou l'autre, quand on n'a pas envie d'aller se confesser. Oh, pénible. Bon, moi, oui, allez, mon Dieu, je vous demande pardon, voilà, c'est fini. On s'est peut-être toujours fait cette réflexion. Alors nous verrons tout à l'heure comment y répondre. Qu'est-ce que nous dit le catéchisme sur ce sacrement? Eh bien, que c'est un sacrement qui a été institué par Jésus-Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. Cela, c'est de foi. Donc, la tradition, tous les pères de l'Église ont toujours admis l'existence de ce sacrement de pénitence. On dit péché commis après le baptême, évidemment, avant le baptême. Eh bien, si on est baptisé adulte, eh bien, tous les péchés que nous avons pu commettre avant le baptême sont effacés par le baptême. C'est le baptême lui-même qui efface tous les péchés commis avant le baptême. Donc, le sacrement de pénitence suppose évidemment qu'on soit baptisé. Et une fois baptisé, alors, malheureusement, on peut retomber dans des fautes, et c'est là où intervient le sacrement de pénitence. Quand Jésus-Christ a-t-il institué ce sacrement? Ah, très bien. Quand, effectivement, le soir de Pâques, quand il est arrivé, première apparition, il souffle sur ses apôtres, recevez-le cet esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Notre Seigneur en avait parlé avant, mais c'était une promesse. C'était une promesse qu'il avait faite, tandis que là, il institue vraiment ce sacrement. Donc, si vous voulez, c'est clair, c'est dans la Sainte Écriture. Donc, ce n'est déjà pas une invention de l'Église. Oui, on répond déjà à cette objection, ce n'est pas une invention, c'est vraiment marqué dans l'Évangile. De quoi est composé ce sacrement ? Un autre point, comme dans tout sacrement, là ça va peut-être devenir un peu plus difficile, il y a ce qu'on appelle la matière et la forme du sacrement. Ça vous dit peut-être quelque chose. Dans le baptême, quand on parle de matière du sacrement, il s'agit de l'eau. Dans le sacrement de confirmation, il s'agit du Saint-Crème. Un sacrement de l'extrême-onction, il s'agit de l'huile des infirmes. Donc la matière, ce qui permet... avec la forme, donc qui sont les paroles que le prêtre, que le ministre prononce, permettent de faire le sacrement. Donc, dans le sacrement de pénitence, effectivement, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que la matière? La matière, eh bien, ça va être tout simplement ce qu'on appelle, et qu'on va voir dans la deuxième partie, ce sont les actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, la confession, et la satisfaction. Voilà ce qu'on appelle la matière du sacrement. Et la forme du sacrement, ce sont les paroles de l'absolution prononcées par le prêtre. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le ministre du sacrement, quel est-il? C'est évidemment le prêtre seul, à la différence des protestants qui, eux, disent « Non, on peut se confesser les péchés les uns les autres. » Non, c'est clair, le Concile de Trente l'a bien précisé, c'est le prêtre seul qui est ministre du sacrement. Alors, à ce sujet, justement, pour répondre à l'objection « Moi, je me confesse directement à Dieu. » Voilà, une dame, donc elle qui se confessait régulièrement, avait un mari, était mariée. Par contre, son mari, lui, se confessait très rarement. Et elle a beau lui dire un jour, « Allez, va te confesser quand même, ça fait longtemps que tu t'es pas confessé, etc. » Puis un jour, son mari en a assez. Et il dit, « De toute façon, moi, je ne me confesse pas à un prêtre. » Elle lui répond, « Eh ben, moi non plus. » Et comment ? Mais tu y vas régulièrement. J'ai l'impression, tous les 15 jours, tu vas te confesser. Donc, tu te confesses bien à un prêtre, quand même, toi. Et toi, tu téléphones tous les jours? Bah oui. C'est quoi? C'est au téléphone que tu parles de tes affaires? Bah non, moi, je parle à mes affaires, à mes interlocuteurs. Eh bien, moi, c'est pareil, je me confesse à Dieu. Donc, je ne parle pas au prêtre, je parle à Dieu. Eh bien oui, c'était quelqu'un qui avait bien compris ce que c'était que la confession. Le prêtre n'est qu'un instrument. Mais évidemment, c'est Dieu qui va pardonner. Mais Dieu a voulu néanmoins utiliser ces instruments que sont le prêtre. En effet, depuis l'incarnation, Dieu veut, dans l'économie ordinaire de sa providence, veut nous conduire par des hommes qui remplacent son Fils auprès de nous. c'est ce que Dieu a voulu. Et vous avez à ce sujet Don Marmion qui le dit très bien. Donc dans le Christ vie de l'âme, un de ses chefs-d'œuvre, il le précise bien. Voici un homme qui a commis un péché mortel. Il vient devant Dieu, il pleure sa faute, il s'afflige le corps par des macérations, il se propose d'accepter toutes les expiations. Dieu lui dit, c'est bien, mais je veux que vous reconnaissiez, que vous proclamiez le pouvoir de mon fils Jésus en vous soumettant à lui dans la personne de celui qui le remplace auprès de vous. Et celui-là le remplace qui a reçu au jour de son ordination sacerdotale communication du pouvoir judiciaire de mon fils. Si le pécheur ne veut pas donner cet hommage à la sainte humanité de Jésus, Dieu refuse de l'entendre. Mais s'il se soumet avec foi à cette condition, alors il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de forfait que Dieu ne pardonne et dont il ne renouvelle le pardon aussi souvent que le pécheur repentant et contrit le désir. C'est très, très bien dit, c'est effectivement cela. Dieu veut que nous obtenions le pardon de nos péchés par son ministre, par ces hommes qu'il a choisis pour remplacer son fils sur cette terre. Donc c'est le prêtre seul. Alors quelles sont les fonctions du confesseur? Vous allez dire, mais ça ne regarde pas, nous on ne confesse pas, donc ça ne regarde pas, c'est pas pourquoi vous nous parlez de ça? Eh bien, tout simplement pour vous donner plus de confiance dans ce sacrement. Toujours une plus grande confiance dans le sacrement pour voir dans le prêtre non pas un bourreau, quelqu'un d'odieux qui vous fait souffrir pendant quelques minutes. Non, c'est au contraire voir qu'est-ce que le bon Dieu a voulu dans cette fonction. Alors, le prêtre a rempli cette fonction de juge d'abord. Alors, évidemment, c'est peut-être la fonction la moins agréable parce qu'il doit instruire la cause, il doit porter une sentence. Effectivement, est-ce que je donne l'absolution ou est-ce que je la refuse? Il doit juger. Il doit juger, donc il doit, pour cela, il peut interroger. Il a le droit d'interroger pour connaître les causes, les obligations par rapport au prochain, etc. Donc il faut qu'il porte un jugement. Donc ça, il a sa fonction de juge. Ensuite, la fonction du prêtre, c'est de médecin. Il est médecin, c'est-à-dire il travaille à guérir le pénitent des plaies causées par le péché. Des plaies causées par le péché, et puis à ramener le pénitent à la pleine santé spirituelle. Il peut s'informer des occasions de chute, pourquoi tel péché, etc. Et pourquoi? Pour appliquer le remède convenable, pour guérir. Guérir l'âme blessée par le péché. Donc voir ça aussi dans le prêtre, dans cette fonction du confesseur. On peut voir aussi la fonction de docteur, non pas dans le sens de médecin, mais docteur dans celui qui instruit. C'est-à-dire, si besoin, il peut instruire. Il doit même, de temps en temps, instruire des vérités chrétiennes. Donc, ce qui veut dire que vous avez tout à fait le droit d'interroger le confesseur, non pas sur les fautes qu'il a faites, mais sur telle ou telle chose, pourquoi, tiens, je ne comprends pas telle chose, ou est-ce que ça c'est un péché, etc. Donc, il a cette fonction d'instruire. D'instruire le pénitent. Et puis, dernière fonction qu'il remplit, le confesseur, fonction de père. Père, tout simplement, en communiquant aux âmes la vie surnaturelle, ou en essayant de l'entretenir, de l'augmenter. Et puis, en exerçant vers ses pénitents, eh bien, cette tendre, miséricordieuse charité à l'exemple de notre Seigneur. Voilà, vraiment, on peut dire que le prêtre, aussi très belle fonction du prêtre, du confesseur, remplir cette fonction de père. Père, pour relever l'âme, pour essayer d'encourager l'âme à monter vers Dieu. Voilà, très rapidement, évidemment, quel rôle doit avoir le prêtre, le confesseur? Donc, vous voyez, ne voyez pas uniquement le bourreau qui vous fait souffrir. Et un autre élément important dans le ministre du sacrement, là aussi j'en parle parce que ça pourra avoir quelques conséquences dont parlons plus tard. Le confesseur est tenu à un secret absolu, ce qu'on appelle le secret de confession. Il est bon d'en parler car le prêtre a une obligation rigoureuse de garder inviolablement le secret sur tout ce qu'il connaît par la confession sacramentelle. Tout ce qu'il apprend par une confession, le prêtre est tenu au secret le plus rigoureux. C'est-à-dire que le secret doit être gardé avec tous, même avec le pénitent après la confession. Ce qui fait que, peut-être l'avez-vous remarqué, jamais le prêtre ne vous parlera de votre confession en dehors du sacrement de confession. Sauf, évidemment, si vous lui demandez. Si vous lui dites, si vous lui demandez, ben, est-ce que, voilà, je me suis accusé de ça, est-ce que vous permettez qu'on reparle de... Bon, dans ce cas-là, c'est vous qui déliez le prêtre de son secret. Dans ce cas-là, il peut. Mais autrement, jamais le prêtre ne reparlera de lui-même de votre confession. Il est tenu au secret. Donc, il n'est jamais permis pour lui de le révéler, même après la mort du pénitent. Une fois que le pénitent est mort, le prêtre n'a pas le droit de révéler les péchés que lui avait accusé le pénitent. Non, ça, on n'a pas le droit. Parce que la réputation, la personne a droit à sa réputation même après sa mort. Donc on n'a pas le droit, le prêtre encourrait les graves sanctions qui seraient attachées pour une violation du secret de confession. Donc si vous voulez, pour le prêtre, jamais permis de le révéler, en aucun cas, ni pour sauver sa propre vie, ni pour éviter les plus grands maux à la société. Jamais. Vous ne pouvez pas trouver une seule raison qui puisse exempter le prêtre de lever ce secret. Même interrogé en justice, même s'il est devant le juge, tout ce que vous voulez, le prêtre doit dire « je ne sais pas ». Ah oui, mais il ment. Eh bien non, il ne ment pas. Ah, quelle est la raison? Parce qu'il dit « je ne sais pas en tant qu'homme ». Parce que, comme homme, je ne sais pas, je sais quelque chose, mais en tant que représentant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, et ça c'est un secret divin. À la limite, seul Dieu pourrait relever le prêtre de ce secret. Mais en tant qu'homme, il est rien, parce qu'il sait ça comme ministre de Dieu. Donc devant un homme, il dit « je ne sais pas ». Ce n'est pas un mensonge. C'est vrai, comme homme, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je sais cette confession en tant que ministre de Dieu, en tant que représentant de Dieu. Alors oui, si Dieu me demande quelque chose, ça je peux lui dire. Mais autrement, devant un homme, non. Donc rien ne peut justifier pour un prêtre de révéler ce qu'il a pu apprendre par une confession. Et d'ailleurs, l'Église y a attaché les plus graves sanctions, parce que si un prêtre viole le secret de confession, ce qu'il a pu entendre, bon, d'abord il commet un péché mortel, évidemment. Et ensuite, il est attaché une peine d'excommunication, donc la plus grande peine, ipso facto, dans ce qu'on appelle l'athée sentencié, donc excommunication ipso facto. Donc c'est ce qu'il y a de plus grave, donc le prêtre n'est plus dans l'Église. Donc vous pouvez, il y a tous les cas possibles et inimaginables. Bon, je crois que je l'avais déjà dit, mais c'est les cas classiques. Vous avez le sacristain qui vient se confesser. Voilà, mon père, je m'accuse d'avoir mis du poison dans les burettes. Et vous allez dire votre messe après, ben, j'ai mis du poison dans les burettes. Donc voilà, je viens m'en accuser. Bon, eh bien, après être sorti du sacrement, eh bien, le prêtre n'a pas le droit d'agir comme si les burettes étaient empoisonnées. C'est-à-dire que si le sacristain ne change pas, ne vide pas les burettes arrière et puis mettre du vrai vin, eh bien le prêtre mourra empoisonné. Il ne peut rien faire. Bon, évidemment, ça c'est un cas d'école, parce que le prêtre exigera du sacristain, bon bah comme pénitence, vous viderez les burettes. Avant la messe. Bon. Mais en soi, le prêtre est lié par le secret, il ne peut rien faire. Ou alors, mon père, dès que vous allez poser la main sur l'autel, tout va exploser. J'ai installé une bombe, et vous allez voir, dès que vous allez poser les mains sur l'autel, poum. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, le prêtre, s'il pose les mains, que ça explose, ben, il sera le martyr du secret de la confession. Bon, quelque chose de... Peut-être, bon, ça, c'est des cas un peu extraordinaires, mais un autre cas qui peut-être pourrait arriver, imaginez... Voilà, le prêtre, donc dans toute chapelle, il y a une chorale, évidemment. Dans chorale, et ben voilà, le prêtre apprend que son chef de chorale va partir, donc il va falloir nommer un autre chef de chorale. Bon, bon, il se refait, il s'informe, bon, tiens, finalement, ben tiens, ah oui, je crois, a priori, tiens, cette mademoiselle Lombec ferait bien l'affaire. Tiens, oui, je lui demandais, je crois qu'elle a les qualités pour ça, donc, ben voilà, je vais la nommer, c'est elle qui va être chef de chorale. Et puis, juste avant d'annoncer cette nomination, voilà que cette demoiselle vient se confesser. Bon, elle se confesse. Et puis, elle dit, écoutez, mon père, je m'accuse de mettre la zizanie dans la chorale, de calomnier, de colporter de faux bruits sur tous les gens de la chorale. Je m'accuse vraiment de diviser les membres de la chorale entre eux, etc. Et vraiment, je m'en accuse. Et puis, c'est vraiment habituel. J'ai beau m'en confesser, mais je retombe toujours dans les mêmes péchés. Bon, ma fille, essayez de ne plus recommencer, évidemment. Voilà, ego te absolvo. Bref, le prêtre sort du confessionnal. Que fait-il? A-t-il le droit de changer de nomination? A-t-il le droit? Bon, zut, maintenant, vient ce que me dit Mlle Lombec. Non, il faut que je prenne quelqu'un d'autre, parce que si je la nomme comme chef de chorale, ça va être le souk. Là, dans 3 mois, il n'y a plus de chorale. Eh bien, non, il n'a pas le droit. Il est tenu. Parce qu'il a appris quelque chose, il sait quelque chose uniquement dans la confession. Donc il n'a pas le droit d'utiliser la science qu'il a acquise par le sacrement de confession, par la confession. Et donc il est obligé de nommer Mademoiselle Lelombec comme chef de chorale. Bon, alors après, ce qui peut se passer, c'est peut-être d'autres personnes vont lui dire, mais vous savez, elle est casse-pieds, ce qu'elle dit. Bon, alors après, il va apprendre de façon extérieure. Alors là, évidemment, il pourra utiliser ce qu'il a appris extérieurement pour changer de chef de chorale. Mais tant qu'il n'a pas appris ça par extérieur, par d'autres choses, ben non, il est tenu au secret. Oui, ça va loin, le secret, mais vous verrez une conclusion que j'en tirerai plus tard, c'est important. Et puis, vous avez le grand martyr du secret de confession, évidemment, c'est Saint Jean Nepomucène. Donc, ceux qui sont allés à Prague, je pense que vous connaissez le pont duquel a été précipité Saint Jean Nepomucène. Bon, ça se passait au XIVe siècle, c'était l'empereur Venceslas, qui avait une sainte épouse et qui se confessait à ce prêtre, Jean Nepomucène. Et évidemment, l'empereur était jaloux et puis il a voulu savoir ben, qu'est-ce que sa femme disait au prêtre en confession. Alors, il a essayé par tous les moyens d'obtenir ce que le prêtre, enfin, ce que sa femme disait, mais évidemment, le prêtre a dit, écoutez, sire, je peux faire ce que vous voulez, mais ça, je peux rien vous dire. Donc ça a été des flatteries, des menaces, des tortures, rien à faire. Donc il en a eu assez, un jour il le torture, puis hop, il le jette dans la Moldau, donc d'un pont. Et puis dès qu'il a été jeté, bon, attaché, forcément il s'est noyé, et tout de suite ce corps a été illuminé. Donc tous les gens ont su que le prêtre était mort comme ça dans le fleuve. Et puis bon, ils vont l'enterrer, etc. Bon, l'empereur, malheureusement, était confus, mais il va quand même mourir au milieu de ses désordres. Et puis, donc ça, le prêtre est mort le 16 mai, Saint Jean Nepomucène, 16 mai 1383. Et en 1719, on va ouvrir son tombeau, et là, on va retrouver son squelette intact, mais ensuite une langue fraîche, sa langue fraîche comme celle d'un vivant, donc qui est encore conservée aujourd'hui dans le même état. Hein, c'est le martyr du secret de la confession. Donc un bon patron pour les prêtres. Alors le prêtre évidemment est tenu au secret, mais aussi bon quelques cas annexes si ça vous arrive un jour d'être interprète. Se confesser avec un interprète, ça peut arriver. Par exemple, vous êtes dans un pays, le prêtre se promène dans un pays dont il ne connaît pas la langue. Et une personne qui veut se confesser, qui va impérativement se confesser. Un minimum pour le prêtre, pour que la confession soit valide, c'est qu'il comprenne les péchés. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui parle sa langue et qui parle les deux langues. Donc, ça peut être un moyen de prendre la personne comme interprète. Eh bien, l'interprète est tenu, évidemment, au même secret que le prêtre, secret de confession absolue, évidemment. Si vous entendez par exemple une confession à côté d'un confessionnal, bon, je sais pas, le pénitent parle fort parce qu'il est sourd ou le prêtre parle fort, etc. Est-ce que vous avez le droit de raconter partout ce que vous avez entendu? Évidemment non. Évidemment non. Et ben, vous êtes tenu aussi à ce secret. Ou alors, si vous aidez, par exemple, la maman qui aide ses enfants à écrire sa confession, bah, rappelle-toi, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc, la maman qui aide son enfant, bah, la maman est tenue au secret de confession. Elle n'a pas à divulguer à son mari, tu sais, mon fils, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'il a fait, etc. J'ai préparé sa confession. Non, évidemment non. Elle est tenue aussi au secret de confession. Voilà ce secret. Alors, quels sont les effets du sacrement ? Oui, je vous en prie. Répétez ça à un prêtre. Alors, bon, ça ne marchera pas, ça, si vous voulez. La personne peut très bien se confesser, le mourant peut se confesser à la personne qui est à côté pour exciter en elle la contrition, pour qu'elle ait la contrition parfaite. Et donc, ayant la contrition parfaite, on va en parler, la personne obtiendra le pardon de ses péchés. Il va retrouver l'état de grâce. Donc, il peut s'exciter à la contrition parfaite de cette façon-là. C'est une façon de s'humilier et d'obtenir, avec la grâce de Dieu, la contrition parfaite. C'est le seul avantage, mais la personne ne peut pas lui donner absolution, évidemment. Et si vous reportez, si cette personne va voir le prêtre, voilà ce que m'a dit un tel, il ne pourra pas non plus donner l'absolution, puisqu'il faut qu'il y ait ce contact direct avec le pénitent. Mais la façon qui peut se faire, c'est encore une fois, pour le mourant, pour apaiser sa conscience et pour l'exciter à faire un acte de contrition parfaite, parce que le prêtre, par malheur, n'est pas là. Voilà la raison de ça. Voilà, quels sont les effets maintenant de ce sacrement, ces merveilleux effets qui doivent nous encourager ? Eh bien, tout d'abord, évidemment, l'effet principal, c'est d'effacer péché mortel commis après le baptême, hein, évidemment. Donc vraiment, les péchés mortels qu'on a pu faire, tous ces péchés graves, ben, ils sont effacés. Il n'y en a plus. Ils sont totalement effacés. Ainsi que les péchés véniels accusés. Ceux dont on a accusé les péchés véniels, ben, ils sont aussi, évidemment, effacés. Donc, conséquence, eh bien, ce péché va remettre la peine éternelle due à ce péché mortel, qui était l'enfer, évidemment. La peine est remise. Donc, c'est supprimé. Donc, si on meurt, évidemment, on ne va plus en enfer. Ensuite, il peut rester plus ou moins cette peine temporelle. C'est-à-dire, il faut réparer. Hein, et cette peine temporelle, qui, si on ne la répare pas, si on ne la remet pas, s'il n'est pas remis sur cette terre, sera remise au purgatoire. Eh bien, ce sacrement, en fonction de nos dispositions, évidemment, que l'on va voir, cette peine temporelle peut être plus ou moins effacée. Vous pouvez avoir, par exemple, une telle contrition, même en accusant que des péchés véniels, que votre peine temporelle peut être complètement remise. Concrètement, ça veut dire que si vous mourrez après votre confession, avec ces bonnes dispositions, où votre peine temporelle est remise, vous allez directement au ciel. Ça peut se faire tout à fait. Ça dépend de vos dispositions. Donc ce sacrement remet plus ou moins la peine temporelle en fonction des dispositions que nous apportons à ce sacrement. Mais bien savoir, si nous avons de bonnes dispositions, la peine peut être totalement remise. Si nous étions, donc ensuite, ce sacrement redonne, si nous l'avions perdu, c'est-à-dire si nous étions en état de péché mortel, redonne la grâce sanctifiante, c'est-à-dire Dieu vient de nouveau habiter dans notre âme, ou si nous sommes déjà en état de grâce, si nous accusons que des péchés véniels, eh bien, la grâce sanctifiante augmente. Donc, nous croissons dans la sainteté, dans l'union à Dieu. Vraiment, voir ces effets de ce sacrement. Ensuite, aussi, ce qui est consolant, si nous commettons un péché mortel, eh bien, on perd tout. On perd les vertus infuses, on perd la foi, l'espérance, la charité. On perd les vertus infuses, donc la charité, plus toutes les vertus morales infuses, et tous les mérites des bonnes œuvres que nous avions faites auparavant. Eh bien, par ce sacrement, nous retrouvons tout ce que nous avions auparavant. On peut même retrouver plus si, encore une fois, comme je l'ai dit, on apporte vraiment de bonnes dispositions, une disposition de contrition. Et puis ensuite, enfin, elle donne ce qu'on appelle la grâce sacramentelle, donc une grâce qui est propre à ce sacrement, qui est un droit de recevoir en temps opportun des grâces actuelles, donc des secours passagers, pour éviter le péché, pour surmonter les tentations. Et oui, c'est-à-dire plus on se confesse, plus on va obtenir des grâces pour ne pas retomber dans les fautes, dans les mêmes fautes. Et donc, moins on se confesse, eh bien, moins on a ces grâces. Donc, vous voyez, c'est très important. Cette grâce sacramentelle, c'est ce bon Dieu qui s'engage à nous donner des secours particuliers pour nous aider à éviter les péchés, à surmonter les tentations, à pratiquer des œuvres de pénitence. Donc c'est très important, très important. Et ça doit nous aider à aimer ce sacrement. Ordinairement, la paix, la sécurité de la conscience. Combien de fois, je pense, nous l'avons tous éprouvé, eh bien on sort après une bonne confession, la paix dans l'âme, la paix de Dieu, parce que Dieu est dans notre âme, ou alors nous avons retrouvé la grâce, tout simplement, donc il y a une certaine paix attachée à cette présence de Dieu dans notre âme, et puis une sécurité de conscience. Donc c'est vraiment des merveilleux effets, on redevient l'ami de Dieu, et on grandit dans son amitié. Voilà vraiment tous ces effets merveilleux. Donc surtout, effectivement, bien s'en rappeler, ne pas les négliger. Alors maintenant, pour obtenir effectivement tous ces merveilleux effets, eh bien j'arrive à cette deuxième partie, ce qu'on appelle les actes du pénitent. C'est-à-dire comment recevoir tous ces effets du sacrement. Comment grandir, augmenter dans la sainteté par ce sacrement. Quels sont les actes que nous devons poser? Alors pour bien recevoir ce sacrement, il y a donc ces trois fameux actes. La contrition, la confession et la satisfaction. Alors voyons-les l'un après l'autre. D'abord la contrition. Qu'est-ce que c'est que la contrition? Eh bien, c'est une douleur intérieure qui nous fait détester le péché que nous avons commis, en prenant aussi avec le propos de ne plus le commettre à l'avenir. Donc, dans la contrition, il y a deux mouvements de notre âme. Un mouvement vers le passé, qui nous fait regretter, détester le péché commis, et un mouvement qui se porte vers l'avenir, c'est-à-dire prendre les moyens pour ne plus recommencer. Donc, la contrition suppose ces deux mouvements, vers le passé et vers l'avenir. Alors cette contrition est nécessaire pour le sacrement. C'est la partie tellement essentielle de ce sacrement que si elle fait défaut, le pardon est impossible. Dieu peut pardonner sans la confession, donc sans l'accusation des péchés, sans la satisfaction, c'est-à-dire sans la réparation, lorsque ces deux conditions ne peuvent être remplies. Par exemple, quelqu'un qui a un accident, qui est dans le coma, il peut pas, ou un muet, il ne peut pas confesser ses péchés. Évidemment, il ne peut pas accuser ses péchés, il ne peut pas les réparer, mais cela suppose quand même, pour que sa confession soit valide, qu'il ait la contrition, au moins imparfaite, qu'il soit dans cet état de contrition. Donc, sans contrition, Dieu ne peut pas pardonner. En effet, parce qu'il ne peut pas donner à son amitié à celui qui, par obstination dans le mal, veut demeurer son ennemi. Évidemment, si vous ne vous regrettez pas les péchés, ben vous restez l'ennemi de Dieu, ben donc Dieu ne peut pas pardonner, ce n'est pas possible. Donc vous voyez, la contrition est l'élément absolument indispensable. C'est ainsi que si par malheur on demande au prêtre l'absolution de ses péchés mais sans aucune contrition, ben dans ce cas-là la confession est nulle, voire sacrilège si on le sait, si on le fait exprès. Mais si on regrette, si on confesse ses péchés sans contrition, ben le sacrement est nul. Voilà ce que dit Don Marmion, toujours dans le Christ vide l'âme. De tous ces éléments essentiels qui regardent le pénitent, la contrition est le plus important. Pourquoi cela? Parce que par le péché, l'âme s'est détournée de Dieu pour se complaire dans la créature. Si elle veut que Dieu se communique de nouveau à elle et lui rende la vie, elle doit répudier la tâche à la créature pour se tourner vers Dieu. Cet acte comprend la détestation du péché et le ferme propos de ne plus le commettre. Autrement, la détestation n'est pas sincère. Telle est la contrition. Comme le mot l'indique, c'est un sentiment de douleur qui brise l'âme, éclairée sur son état malheureux et sur l'offense divine, et la fait retourner vers Dieu. Voilà la contrition. Alors, comment doit être notre contrition? Quelles sont les qualités de notre contrition? Doit être d'abord réellement intérieure, hein, dans notre cœur, évidemment, donc pas seulement par des paroles, des signes extérieurs. Donc les larmes ne suffisent pas, évidemment. Elles peuvent être bonnes, hein, comme saint Pierre, qui a pleuré son péché ou le reniement de son maître, mais elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez très bien avoir la contrition sans des larmes. Le bon larron, par exemple. L'Évangile ne nous dit pas que le bon larron s'est mis à pleurer. Non, mais il a été pardonné. Donc les larmes ne sont pas un signe de contrition. Donc c'est surtout contrition intérieure. Elle doit être surnaturelle. Donc des motifs surnaturels. L'infinie bonté de Dieu que nous avons offensé, souffrance, mort de Jésus-Christ pour nos fautes, laideur du péché qui déplaît à Dieu, récompense éternelle que nous fait perdre le péché, par exemple, châtiment éternel dont les péchés nous rendent passibles. Donc tout ça, ce sont des motifs surnaturels qui peuvent susciter notre contrition. Évidemment, les motifs naturels ne font pas la contrition. Par exemple, je regrette ce péché, comme ça je vais bien me faire voir par le prêtre. Ça ne marche pas. La contrition ensuite doit être souveraine, c'est-à-dire ça doit être la plus grande des douleurs. Donc c'est-à-dire, on doit vraiment détester le péché comme le plus grand des mâles. Alors attention, ça ne consiste pas dans le sentiment, parce que vous allez dire, mais perdre des êtres chers me font plus souffrir que regretter mes péchés. Là, ça c'est du domaine du sentiment. Ce qu'on demande, c'est du domaine de la volonté. C'est que notre volonté, notre intelligence voit le mal comme le plus grand mal qui puisse nous arriver. Et donc, on le déteste comme tel. Donc, c'est du domaine de notre raison, de notre volonté. Mais ce n'est pas du domaine de la sensibilité. On peut très bien détester le péché, mais vraiment, du fond de son cœur, et rien en sentir. Mais ce n'est pas pour ça que ça ne sera pas vrai. Donc, faut bien faire cette distinction. Donc c'est là, il faut mieux se dire, un exemple, eh bien je préfère voir mourir mes parents, mes enfants, plutôt que de commettre un seul péché mortel. Voilà ce que ça veut dire. Et effectivement, ça doit être notre cas. Si vous dites, non, ça c'est pas possible, dans ce cas-là, on n'a pas compris ce que c'était que l'horreur du péché grave. Donc ensuite, la contrition doit être universelle, c'est-à-dire elle doit s'étendre au moins à tous les péchés mortels, sans aucune exception. Évidemment, si on fait des sélections, celui-là je regrette, ça je regrette pas, non, évidemment, ça montre qu'on regrette pas vraiment nos péchés. Toujours selon la formule classique, « Oh mon Dieu, je regrette tout, sauf d'avoir tué ma belle-mère. » Eh bien, dans ce cas-là, on regrette rien. « Oh, les pauvres belles-mères, pourtant, elles n'ont rien fait. » Ensuite, ça c'est la contrition, le bon propos aussi, il est bon d'insister un petit peu dessus, donc c'est le deuxième élément de la contrition, donc c'est volonté sincère de ne plus pécher à l'avenir. Donc il faut avoir cette volonté. Est-ce que cette volonté, vous allez me dire, mais je crains, je me connais, je suis faible, je crains de retomber. Alors est-ce que la crainte de retomber dans le péché empêche le propos d'être ferme? Non. Parce qu'on peut avoir cette crainte de retomber, parce qu'on a peut-être l'expérience de sa faiblesse, tout en étant bien résolu de ne pas retomber dans le péché. Je ne veux pas retomber, donc je vais prendre les moyens pour ça. Mais bon, je crains quand même de retomber. Oui, il y a une nuance, c'est quand même pas pareil, ce n'est pas la même chose. Ce qui est obligatoire, c'est d'avoir cette volonté de ne pas retomber, ce qu'on appelle le ferme propos. Ça, évidemment. Donc le ferme propos exclut ce qu'on pourrait appeler le péché mignon. Ah, mes trois McDo quotidiens. Ah, ça, je ne peux pas m'en passer. Mon petit péché mignon. Oh, c'est mon petit péché mignon. Bon, ça, il faut vraiment le vouloir. Bon, enfin bref, il y en a peut-être, c'est peut-être un péché mignon de certains, faire ses McDo trois quotidiens. Bon, bref. Donc le bon propos exclut ce petit péché qu'on aime bien. Ensuite, ce ferme propos, il faut être efficace. Et pour être efficace, il doit surtout éviter ce qu'on appelle l'occasion prochaine au péché. C'est-à-dire l'occasion qui nous porte à pécher, qui nous porte ordinairement au péché, ou alors nous met en péril évident de le commettre. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être fréquentation de tel lieu, un bar pour l'ivrogne, par exemple. Ça peut être la fréquentation de telle personne. Si on fréquente telle personne, avec elle, on sait qu'on va commettre des péchés. Bon, la médisance, la calomnie. Bon, ça peut être des péchés plus graves, peut-être même... Bref. Ça peut être fréquentation, de telle compagnie, etc., de tels gens qui nous poussent à pécher, etc. Ça peut être la télévision. Oui, la télévision peut tout à fait être des occasions de péché, vu ce qui se passe à la télévision. Ça peut être maintenant, il y a quelques années on ne le disait pas, mais maintenant ça peut être des sites internet. Ça peut être des occasions de péché, parce que je crois qu'il y a vraiment des sites abominables. Et j'allais dire, malheureusement, c'est presque plus facile que la télévision. Parce que la télévision, encore, il faut attendre l'heure, il faut attendre le programme. Mais à Internet, on a tout ce qu'on veut au moment voulu. Donc on choisit, on fait son programme. Donc c'est, d'une certaine façon, c'est même pire que la télévision. Donc ça, l'Internet peut être une occasion de péché aussi. Ou des livres, tel livre aussi, etc. Donc ça, c'est l'occasion. Donc si on a vraiment le ferme propos de ne pas retomber à l'avenir dans le péché, eh bien on va fuir l'occasion prochaine. Alors les contritions, vous savez, il y a ce qu'on appelle les deux sortes de contritions, contrition parfaite ou contrition imparfaite. Alors justement, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, c'est important de savoir ce que c'est que la contrition parfaite, parce que c'est la douleur d'offenser Dieu, on offense Dieu, parce qu'il est, comme nous dit l'acte de contrition, infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché lui déplaît. Voilà le motif. Je regrette mes péchés parce qu'ils ont offensé Dieu si bon. Dieu qui m'a tant aimé, Dieu qui m'aime tant, qui me donne tant de grâce, eh bien voilà que je commets encore des péchés. Mon Dieu, pardon. Vraiment, je veux m'en sortir. Ça, c'est la contrition parfaite. Et quel est l'effet de ces contritions parfaites? Eh bien, c'est d'effacer le péché. Même le péché mortel. Même avant l'absolution. Parce que si vous faites un péché, si vous tombez dans un péché grave, vous faites un acte de contrition parfaite, de toute façon, le désir de se confesser va être inclus dans cette contrition parfaite. Quelqu'un qui tombe dans un péché grave par malheur, eh bien tout de suite, si effectivement il va faire un acte de contrition parfaite, mon Dieu, non, c'est vrai, oh, je vous êtes si bon, qu'est-ce que je viens de faire, c'est affreux, je vous en demande pardon, vous êtes infiniment bon, voilà, je vais me confesser dès que je peux. Et c'est inclus. C'est inclus dans cet acte de contrition parfaite. Dom Marmion aussi dit très bien cela. La contrition imparfaite quand l'âme est triste d'avoir offensé le souverain bien et la bonté infinie. Cette perfection se tire du motif qui est le plus élevé qui soit, la majesté divine. Mais il va de soi que cette contrition parfaite dans sa nature comporte dans son intensité, toute une série d'échelons. Cette intensité varie suivant le degré de ferveur de chaque âme. Quel que soit ce degré d'intensité, l'acte de contrition parfaite dans son motif efface le péché mortel au moment où l'âme le produit. Mais dans l'économie actuelle, en vertu du précepte positif établi par le Christ, l'accusation des fautes mortelles demeure obligatoire quand elle est possible. Oui, par exemple, une conséquence... Vous commettez par malheur une faute grave, vous avez cette grâce de faire un acte de contrition parfaite, vous dites, j'ai fait un acte de contrition parfaite, donc je peux aller communier. Bon, puis j'irai me confesser plus tard. Non, on doit d'abord aller se confesser. Pour ensuite, parce que c'est un précepte, comme dit Dom Marmion, c'est un précepte positif de l'Église, de Jésus-Christ et de Saint Paul, que celui qui, avant de communier, s'examine, etc. Donc c'est un précepte positif. Donc on doit d'abord se confesser des fautes graves, avant d'aller communier. Même si en soi, on a retrouvé l'état de grâce. Et puis la contrition imparfaite, alors elle, on regrette d'avoir offensé Dieu, surtout par la considération de la laideur du péché, par exemple, ou la crainte de l'enfer, des peines. L'effet de cette contrition imparfaite, c'est de disposer le pécheur à recevoir la grâce de Dieu par le sacrement. Donc, elle est bonne pour se confesser. On fera une confession tout à fait valide. Voilà pour la contrition. Mais bien se rappeler, c'est l'élément indispensable, essentiel. Ensuite, la confession, l'accusation de ses péchés. Deuxième élément, deuxième acte du pénitent. Ça, c'est d'institution divine. Là aussi, ce n'est pas une invention de l'Église. En effet, vous l'avez entendu, je l'ai dit tout à l'heure, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. C'est-à-dire que Jésus établit les prêtres juges à l'égard des pécheurs. Eh bien, s'ils sont juges, ils doivent nécessairement connaître ceux qu'ils ont à juger. Donc, ça suppose l'aveu sincère du coupable. Et donc, l'accusation des péchés est d'institution divine. Donc, c'est vraiment voulu par Dieu. Alors, peut-être quelques petits conseils rapidement, même si le temps passe. La confession, donc, c'est l'accusation de ses péchés faite à un prêtre. Alors, on parle d'accusation. Ce n'est pas un discours, ce n'est pas une narration, c'est pas il faisait gris, il pleuvait, j'avais le cafard. Et puis vraiment, mon père, j'ai à vous dire aussi, phrase terrible, j'ai aussi à vous dire que, alors on se dit, mon Dieu, où en va-t-on? Alors oui, les enfants étaient particulièrement odieux aujourd'hui, etc. Bon bref, donc ça dure 5 minutes. Pour arriver au bout, oui, je m'accuse d'avoir donné une tape à mon enfant. Bon, non, c'est une accusation. Ce n'est pas une confidence non plus. Mon père, est-ce que vous connaissez les dernières prophéties de Nostradamus? Non. Ce n'est pas non plus une excuse. Ah, j'ai mangé 10 plaquettes de chocolat, c'est bon pour le moral. Ben non, mon père, je m'accuse d'avoir été gourmand. Oui, là, j'ai un peu abusé quand même. J'ai mangé 10 plaquettes de chocolat. Bref, c'est une accusation. Une accusation, on s'accuse. Évidemment, je précise de ses propres péchés. Non pas ceux d'autrui. Mon père, vous savez, Madame Intel, c'est une chipie. Ah, vous savez, elle m'insulte. Elle se moque de moi. Et puis, vous savez, mon mari, oh là là, si vous savez, c'est des fous, il est comme ci, il est comme ça, etc. Bon, madame, vos péchés? Moi? Oh, vous savez, je dis mes prières. Oh, je fais oraison. Oh, vous savez, je crois vraiment gentil avec tout le monde. Vous savez, tout ce qu'on me fait supporter. Madame, vos péchés? Bon, je caricature un petit peu, mais pas toujours. De temps en temps, ça arrive. Bon. Voilà, donc on accuse ses péchés et pas ceux du voisin ou de son mari ou de sa voisine. Alors les qualités, comment doit être notre confession? Bon, évidemment, confession humble. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans l'attitude d'un coupable. Un coupable. Vous savez, mon mari, il est général, il est député, il est très puissant. Bon, oui. Non, on n'intimide pas le confesseur. Donc, confession humble. Eh bien, oui, j'ai beau d'être la femme d'un général, eh bien, j'ai fait ça. Bon, j'espère que vous allez être patiente, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Bon, alors, confession sincère, c'est-à-dire, c'est accuser ses péchés tels qu'on les connaît. La sincérité, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de les augmenter, pas à peine d'en rajouter. Ça ne sert à rien, évidemment, de les diminuer. Non, c'était à donner ce qui est certain, ce qui est certain. Vous ne savez pas, ça, telle chose est un péché. Dans ce cas-là, vous dites, mon père, je ne sais pas. Voilà, j'ai fait ça, je ne sais pas si c'est un péché. Donc, on accuse douteux ce qui est douteux. Et ensuite, le confesseur pourra vous poser des questions, vous demander des précisions. Mais accuser certain ce qui est certain, douteux ce qui est douteux. Et puis répondre éventuellement aux questions que le prêtre peut poser. Donc, on accuse aussi, évidemment, je vous disais, c'est péché, mais pas une liste. Bon, là, pour vous aider, je vois que vous avez des listes, ça peut nous aider. Mais vous n'êtes pas... Mon père, Je m'accuse d'avoir omis la prière le matin, le soir. Je m'accuse d'avoir omis la fréquentation des sacrements, de l'Eucharistie, d'avoir fait des communions et des confessions sacrilèges, d'avoir eu des doutes volontaires contre la foi, d'avoir mis en péril la foi par les lectures des journaux impies, par des fréquentations dangereuses, d'avoir eu du respect humain, d'avoir manqué de confiance en Dieu ou confiance précédente, d'avoir manqué de soumission à la volonté de Dieu, pratique superstitieuse, d'avoir employé inutilement le nom de Dieu, de blasphème, des serments faux inutiles, etc. On n'a pas besoin d'une liste, parce que sans doute vous n'avez pas fait tout ça. Donc on accuse ces péchés et non pas une liste. Ou pas la liste qu'on ressort à chaque fois. Quoi. Bon, moi c'est fait, moi je me suis fait une liste pour une fois. Et elle est là dans le tiroir, puis je la ressors à chaque fois. Non, c'est pas ça. Alors peut-être aussi quelque chose... Je vais vraiment me faire taper sur les doigts. Des choses qu'on... Souvent on a... On oublie un petit peu d'accuser, enfin je vous dis ça un peu par expérience, c'est les péchés de scandale. On n'y pense pas assez, ça. On peut scandaliser des personnes, par exemple, bien par notre langage. Est-ce que, de temps en temps, devant des enfants, par exemple, on a peut-être eu un langage qui a pu les scandaliser? Qu'est-ce que c'est que le scandale? C'est porter, c'est être une occasion de péché pour une personne. C'est-à-dire qu'on devient, pour une personne, une occasion de péché. Eh bien, il y a une responsabilité. Dieu, notre Seigneur l'a bien dit, un malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudra mieux pour lui qu'on lui attache une meule de moulin autour de cou, qu'on le précipite dans la mer. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Et ça, souvent, on n'y pense pas assez. J'ai pu scandaliser telle ou telle personne. Là-dedans rentre dans ce domaine-là, bon, un petit peu entre parenthèses, parce que... un peu les manques de pudeur. Vous allez dire, quel, encore, voilà, le rabat-joie. Ouais, de toute façon, les prêtres, ils parlent toujours de ça. Puis de toute façon, pour moi, ça ne me fait rien. Moi, ça me laisse complètement indifférent. Je ne vois pas où est le problème. D'abord, le problème, c'est chez les hommes. Donc, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Vous riez peut-être, mais on entend des réflexions comme ça. Et bien là, il y a un problème. Parce que précisément, on ne sait pas ce que c'est que le scandale. Peut-être pour vous, effectivement, ça ne vous fait rien. Vous n'êtes pas scandalisé par votre tenue. Mais ça scandalise d'autres, c'est-à-dire que ça les pousse au péché. Et par là même, bah, vous êtes coupable, que vous le vouliez ou non. Je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez? Alors si vous ne comprenez pas, eh bien, demandez, posez des questions à votre mari, à vos parents ou à un prêtre. Si vous ne comprenez pas pourquoi les prêtres sont toujours en train de rabâcher les mêmes choses. Parce que malheureusement, bah, on n'est pas toujours obéi. C'est dans l'éducation, certaines, bon, vous avez des enfants ou d'autres sont institutrices ou professeurs. C'est très beau l'éducation, c'est un beau métier. Il y a quelque chose de casse-pied quand même, c'est de répéter toujours les mêmes choses. Et quand vous avez l'enfant, mais ça vous me l'avez jamais dit. Oh, non, c'est juste la 506e fois que je te le dis. Eh bien, de temps en temps, nous les prêtres, on a un peu cette impression-là. De dire, ben, faut toujours répéter les mêmes choses. Ben, oui, je suis désolé, mais oui, c'est vrai. Parce que, ben, encore une fois, peut-être par insouciance, ou je ne sais pas pourquoi, ben, on n'obéit pas. Hein, donc, essayez de faire attention, ne pas scandaliser par votre tenue. Hein, ces règles de pudeur. Bon, vraiment, entre parenthèses, je m'arrête là-dessus, la pudeur, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, apprenez à vos enfants cette pudeur. C'est une vertu, donc, qui protège cette vertu de chasteté, de pureté. Elle protège cette vertu. Donc, c'est plus ou moins inné chez des personnes. Il y a des personnes qui l'ont de manière innée, d'autres un peu moins. Donc, ça s'apprend. Attention, la pudeur, ce n'est pas la pudibonderie. C'est différent. La pudibonderie, c'est la pudeur par excès. Donc, c'est un défaut. Comme le manque de pudeur, bah, c'est la pudeur par défaut. Donc, ça aussi, c'est un défaut. Non, ça s'apprend. Donc là, je crois, d'abord, ça s'apprend par notre exemple. Les mères de famille, bien, vis-à-vis de leurs enfants, de leurs jeunes filles, eh bien, doivent d'abord elles-mêmes être pudiques pour ensuite apprendre la pudeur aux enfants, c'est évident. Mais sachez-le, c'est le rôle aussi de la mère de famille d'éduquer les enfants dans ce sens-là. Bon, il n'y a pas que les filles aussi, les garçons aussi, il faut les éduquer à la pudeur, évidemment. Donc attention au péché de scandale, hein. Donc il faut y penser aussi. Ensuite, la confession, évidemment, doit être entière, intègre. C'est la sincérité. Aussi, la simplicité, accuser sans détail inutile. Donc, pas besoin de dire, j'ai donné un coup de pied avec des chaussures bleues, ça c'est, on s'en fiche. Ça, la couleur des chaussures, peu importe. Mais bon, sachez aussi quand même être précis. Oh, j'ai péché contre la charité. Ça, c'est vaste. Alors, on peut pécher envers Dieu, envers le prochain, envers nous-mêmes. On peut pécher par pensée, par parole, par action. Est-ce que c'est seul ou avec d'autres, etc. Donc, il faut préciser. Il y a des péchés. Alors, quand c'est précisé, enfin, quand c'est dit de manière aussi vague, évidemment, ne vous étonnez pas si le prêtre ensuite pose des questions. On est obligé de le savoir. Bon, confession intègre, donc ça veut dire les péchés tels qu'ils sont, avec leur espèce, comme on dit, les circonstances, qui peuvent aggraver le péché. Par exemple, voler dans une église, il faut préciser que c'est dans une église, parce que ça devient sacrilège dans ce cas-là. Ou injurier ses parents, c'est plus grave qu'injurier un collègue de travail. Donc il y a quelque chose de plus grave. Donc il y a des circonstances qu'on doit accuser. Bon, si on oublie un péché mortel, oublie, non, par définition, involontaire, est-ce que la confession est bonne? Oui, évidemment. On n'a pas fait exprès. Après, évidemment, si ce péché revient à la mémoire, dans ce cas-là, on l'accuse dans une confession suivante. Par contre, si on omet volontairement un péché mortel, alors là, on sait, on a commis un péché mortel, et puis on ne le dit pas exprès. Alors évidemment, là, la confession, dans ce cas-là, elle est nulle. Hein, nulle et sacrilège. Alors là, quelle raison? Souvent, c'est le démon qui est derrière, c'est ce qu'on appelle le fameux démon muet. Hein. C'est-à-dire la honte, souvent la mauvaise honte qui est inspirée par le démon. Comment on ne dit pas ça? Toi, t'as fait ça, te rends compte? Si tu dis ça, que va penser le prêtre de toi? Tu te rends compte? Déjà, t'as bien vu la dernière fois que tu t'es confessé, là. Tu vois, là, à la sortie de la messe, il t'a pas salué, le prêtre. Eh bien, c'est précisément parce que tu avais accusé ça. Alors, tu vas pas lui dire ça, il va te regarder de travers, tu vas voir. Et puis il manœuvre comme ça. Et puis après, si on se laisse avoir par cette honte, on n'accuse pas, je l'ai pas dit. Vous sortez du confessionnal, 30 secondes après, le démon inverse sa tactique. Tac, t'as pas dit ça, t'as fait une mauvaise confession, t'as conscience tranquille maintenant? Ah, et voilà. Et le démon va vous mettre dans un cercle infernal. T'as pas dit ça? Bon, alors maintenant, la prochaine fois, tu vas oser dire au prêtre que tu lui as cassé un péché? Que tu lui as caché un péché? Tu vas oser lui dire ça? Mais ça va être pire que la première fois. Etc. Donc là, il faut casser. Il faut casser ce cercle si par malheur on tombe dedans. Comment casser le cercle? Eh bien, tout simplement, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le prêtre est tenu au secret le plus absolu. Donc ça peut être un bon moyen, ça peut nous aider en disant, de toute façon, le prêtre est tenu au secret le plus absolu. Donc ça peut être un moyen pour casser ce cercle. Ou alors se rappeler aussi que vous n'avez rien à craindre d'humiliant du prêtre, parce que le prêtre, lui, c'est un pécheur aussi, se confesse. Souvent, quand on va se faire soigner chez des médecins, les médecins, ils ne connaissent pas toutes les maladies qu'on a. Le prêtre, lui, il se confesse. Il commet des péchés aussi. Donc il sait ce que c'est. Et puis ensuite, ne pas hésiter à demander l'aide au prêtre. Voilà, mon père, je ne sais pas accusé, il y a quelque chose, j'ai honte de vous le dire, je ne sais pas comment le dire. Dites-le. On a vu tout à l'heure, le prêtre est un docteur, un médecin, il peut vous aider aussi. Donc vous voyez des petits moyens pour essayer de ne pas rentrer dans ce cercle du démon muet. Parce qu'il y a une petite histoire, ça c'est vraiment une histoire, justement à ce sujet. Un jour, un confesseur voit rôder le démon autour de son confessionnal. Le confesseur dit, qu'est-ce que tu cherches? Le démon, je rends aux gens ce que je leur ai dérobé. Quoi? Tu as dérobé quelque chose? Qu'est-ce que tu leur as dérobé? La honte. Lorsqu'ils voulaient leur commettre le péché, je leur ai ôté pour qu'ils n'aient pas honte de le faire. Et maintenant, à présent, je la leur rends pour qu'ils aient honte de l'accuser. C'est une petite histoire, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Souvent, on n'a pas honte de commettre le péché, mais évidemment, quand ensuite il s'agit de l'accuser, c'est là où le démon nous attend. Il va nous susciter la honte. Alors, ne tombons pas dans ce panneau, sachant que, évidemment, c'est toujours les mêmes sortes de péchés. Souvent, tout ce qui concerne l'injustice, le vol, on n'aime pas trop ça, le démon va nous attaquer. Puis, évidemment, souvent les péchés contre le 6e, 9e commandement, ce qui concerne la pureté. Donc, ne tombons pas dans ce panneau-là. Ayons cette simplicité. Et si par malheur on a fait une confession sacrilège, ben vous savez, c'est le seul cas, l'abbé Troidec en parlait ce matin, mais c'est le seul cas où la confession, disons, ce qu'on appelle générale, depuis la dernière bonne confession, est obligatoire. Alors, si vous avez fait une confession sacrilège en cachant volontairement un péché mortel, vous avez passé plusieurs confessions, bien pour remettre les pendules à l'heure, si vous voulez, pour retrouver la grâce, ben il faut recommencer la confession depuis cette confession sacrilège. C'est le seul cas qui soit obligatoire. Autrement, les autres confessions générales ou semi-générales, ben vous avez entendu ce que vous a dit l'abbé Troidec ce matin, donc ça peut être utile pour augmenter en nous la contrition, faire un peu un bilan, mais surtout c'est évidemment déconseillé aux personnes scrupuleuses ou trop timorées. Donc sachez toujours demander au prêtre. Voilà, dernier acte du pénitent, mais là je vais être très rapide, ce qu'on appelle la satisfaction, c'est réparer l'injure faite à Dieu. Et ça, c'est la réparation de l'injure faite à Dieu et du tort fait au prochain. Ça, c'est évidemment bon, le cas plus flagrant, c'est le vol, évidemment. C'est-à-dire qu'on va vous demander de restituer. Si vous ne voulez pas restituer, eh bien, vous ne voulez pas réparer, donc ça montre que vous n'avez pas la contrition. Donc, il n'y a pas, dans ce cas-là, la confession ne sera pas bonne. Donc, la réparation est importante. Si dès le départ, vous dites « je ne ferai pas la pénitence que va me donner le prêtre », c'est clair, il n'y a pas de confession. Ce que vous ne pouvez pas faire, dites-le lui. Je ne sais pas, vous direz un chemin de croix, entre chaque station, un rosaire. Entre chaque dizaine, vous direz les litanies du précieux sang, du Sacré-Cœur et de la Sainte Vierge, et le tout, vous le ferez à genoux. Mon père, je crois que je peux pas. Bon, là, parlez-en tout simplement au prêtre. Et puis la réparation, en dehors du sacrement aussi, évidemment, est possible avec la prière, le jeûne, l'aumône, etc. Voilà, donc aimons beaucoup ce sacrement. De pénitence, on voit la sagesse, la puissance, la bonté de Dieu. Vraiment, cet épisode de Sainte Marie-Madeleine doit nous encourager ce matin. Vous voyez, cette femme qui était vraiment une pécheresse, c'était son titre dans la ville, la pécheresse, eh bien, notre Seigneur lui a pardonné. Et là, aussi, ce merveilleux épisode aussi, qui est vraiment beau, c'est celui de la femme adultère, où ces pharisiens amènent à notre Seigneur cette femme adultère. Voilà, maître, on t'amène cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous dit qu'il faut lapider cette femme. Alors toi, qu'en penses-tu? Alors c'était le piège. Le piège, pourquoi? Parce que si notre Seigneur disait, eh bien, pardonnez-lui, laissez-la partir. Ils vont dire, eh bien, tu es contre la loi de Moïse. Tu ne respectes pas la loi de Moïse qui dit, il faut lapider cette femme. Non, ils condamnaient notre Seigneur. Si notre Seigneur disait, effectivement, appliquer la loi de Moïse qui demande de lapider cette femme, qu'est-ce qu'allaient dire les pharisiens? Eh bien, cet homme est un imposteur parce qu'il parle de pardon sans arrêt. Voilà qu'on lui amène cette femme et il demande qu'on la lapide. Donc c'est un imposteur. Donc le piège paraissait parfait. Notre Seigneur, a priori, ne pouvait pas s'en sortir. Eh bien, que dit notre Seigneur? Il est indifférent, il écrit. Alors, tu nous réponds ou quoi? Bon, ben écoutez, vous voulez une réponse? Eh bien, que celui qui est parmi vous sans péché lui jette la première pierre. Puis notre Seigneur continue à écrire, à s'amuser par terre avec le sable. Et puis, l'évangile note. Eh bien, ils commencèrent à partir. En commençant par les plus vieux. Et Saint Jean, c'est Saint Luc, je crois, ou Saint Jean, je ne sais plus, enfin l'un des deux, non Saint Jean, qui précise ça en commençant par les plus vieux. Et puis notre Seigneur se retrouve seul avec cette femme. Personne ne te condamne? Non, personne, Seigneur. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va, mais ne pêche plus. D'accord, tu as regretté ce péché, mais aie ce ferme propos de ne plus pécher. Eh bien, je crois que c'est vraiment pour nous l'attitude que nous devons avoir. Nous avons tous fait des péchés. Eh bien, sachons demander pardon à notre Seigneur et nous rappeler son attitude qu'il a eue avec ses pécheresses. Et puis, évidemment, cette belle parabole de l'enfant prodigue. Et tout cela nous permettra de faire de bonnes confessions. Et demandons au Saint-Esprit de nous aider, cette grâce de lumière. Et puis aussi à Notre-Dame, refuge des pécheurs, quand on a un peu de peine, de difficulté, recourons à elle. C'est elle qui saura nous aider à faire une bonne confession avec tous ces éléments-là. Donc n'ayez plus peur de ce sacrement, mais préparez toujours bien vos confessions et vous verrez, vous grandirez comme ça dans l'union à Dieu.